Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 6h46, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Alors aujourd'hui vous discutez avec Tatiana Kastueva-Jean, directrice du centre Russie NEI à l'IFRI. Il est question des élections présidentielles en Russie et bien entendu de Vladimir Poutine, président et candidat qui a par ailleurs répondu aux questions des journalistes hier, n'est-ce pas ?
Et oui, conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine hier, à 4 mois à peine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Cette intervention signait l'entrée en campagne du président russe. Bonjour Tatiana Jean.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, directrice du centre Russie NEI à l'IFRI. Alors, 3h40 de questions et réponses avec les journalistes sur à peu près tous les sujets, notamment l'économie et la place de l'opposition. Comme d'habitude, le président n'a pas été malmené, il a même pu placer quelques bonnes formules. Il faut dire qu'après un léger suspense cette année sur sa 4e candidature, Vladimir Poutine avait déclaré lundi sa volonté de rendre la vie meilleure dans ce pays, de le rendre plus puissant, mieux protégé. Et c'est vrai qu'il apparaît serein avant cette élection, la voie assez dégagée puisque la Russie est en pleine renaissance internationale, reprise économique, dans un paysage politique surtout plutôt neutralisé. Le principal opposant Alexei Navalny interdit de se présenter, des anciens candidats ou des nouveaux hauts en couleur en tout cas qui ne perceront pas, et puis des manifestations peu à peu limitées par un certain nombre de lois prises dès 2012, moment d'une contestation inédite. Alors cette élection sera-t-elle celle présidentielle de Vladimir Poutine, comme le disait l'Express, peut-être, mais avec deux épines dans le pied quand même, Tatiana Jean, une opposition plus dure qui se prépare peut-être, et la question économique et ses conséquences, corruption, mécontentement, plus aiguë qu'avant. Pour commencer, peut-être votre avis, Tatiana Jean, sur cette conférence de presse de Vladimir Poutine. Donc hier, je le disais, certains bons mots, peut-être pas de difficultés, mais quand même interrogé dès le début sur la faiblesse de l'opposition.
Oui, en fait, finalement, au bout de cette 16e fois, on n'apprend pas les choses qu'on ne sait pas déjà. J'en retiens le discours qui n'a rien de surprenant sur les États-Unis, sur l'Ukraine. Sans surprise, Vladimir Poutine souligne l'absence de troupes russes sur place et souligne que les Ukrainiens et les Russes, c'est un seul peuple, le peuple divisé. La question, évidemment, qui a attiré l'attention, c'était la question de Xenia Sobchak sur Alexei Navalny. Navalny, c'est un peu le nom de famille tabou. On dit que Vladimir Poutine ne le prononce jamais.
Alors précisément, on entre dans le vif du sujet. Je précise pour nos auditeurs, Xenia Sobchak, qui est une des principales opposantes, en tout cas indépendante, présentée comme ça à Vladimir Poutine, créditée pour l'instant de 1% d'intention de vote.
Et regardez déjà la façon dont deux candidats à la présidentielle communiquent. Il y en a un à la tribune et l'autre dans la salle qui pose la question et qui dit que pour elle, c'est l'un des rares moyens, en fait, d'avoir une sorte de débat avec un autre candidat à la présidentielle. Au fond, ça veut tout dire, cette mise en scène. Et Xenia Sobchak représente une opposition libérale et démocratique en Russie. En même temps, elle sait très bien elle-même qu'elle a de très faibles chances de gagner. Et toute la problématique de sa candidature, au fond, c'est de faire passer sa perception de la personne de show business vers quelqu'un qui serait plus crédible politiquement. Très probablement, Xenia Sobchak ne compte pas du tout sur une victoire pendant les prochaines élections, mais pense éventuellement construire une carrière politique au-delà de ces élections, où dans tous les cas elle est gagnante, parce que ne serait-ce que pour sa propre popularité, être candidat à la présidentielle, c'est quand même pas trop mal. Donc, elle est assez gagnante dans l'histoire, ce qui est aussi le cas pour Vladimir Poutine en quelque sorte. L'administration présidentielle se cassait la tête comment augmenter le taux de participation dans ces élections, qui n'ont aucune surprise finalement. On sait très bien qui est le gagnant.
Et pour l'instant, 28% de participation annoncée, c'est vrai.
Voilà, ce qui est extrêmement faible. Donc, tout l'art de la technologie politique russe était dirigé à résoudre ce problème-là, le problème d'un éventuel taux de participation qui serait extrêmement faible.
Et alors, concernant cette technologie politique russe que vous évoquez, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau de la présidentielle où on trouve de manière assez invariable d'anciens candidats qui ont plus de 70 ans, désormais communistes ou libéraux? Effectivement, cette nouvelle indépendante, on pourrait dire Xenia Sobchak, un certain nombre de femmes, dont certaines viennent du milieu de la télévision, qui se présente, une, je disais, ou en couleur aussi, ancienne actrice porno. Est-ce que c'est ça, cette ingénierie politique justement dont vous parlez, qui sert à quoi ? À noyer les candidatures en quelque sorte ?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part une certaine stagnation du système politique, même au sein des partis politiques communistes ou LDPR, le parti de Vladimir Jirinovski, qui est le parti de l'extrême droite en Russie, malgré son nom de démocratique et de libéral, il y a au fond une vraie stagnation et incapacité de trouver de nouveaux cadres capables de mobiliser l'électorat. Les deux partis sont très clairement en perte d'électorat, ce qui est assez flagrant dans le cas des communistes, qui a toujours été le deuxième parti politique en Russie et qui est en train de repasser le troisième, et les deux avec un énorme écart par rapport à Vladimir Poutine ou au parti Russie Unie. Et tout ce système-là, en fait, le Kremlin a très peur d'y toucher. C'est confortable, les dés sont jetés d'avance, on sait qui va gagner, etc. Mais néanmoins, pour créer un petit peu, même pas d'intrigue, mais un petit peu d'animation autour de ces élections, il y a des candidats qui sont un peu amusants. Les gens de show business, c'est d'ailleurs très significatif, c'est ce qui manque à ces élections. Le côté show, le côté quelque chose qu'on peut montrer au public, et qui passe très bien à la télé, etc. Et tous ces candidats, y compris Xenia Sobchak, qui est peut-être même la meilleure de ces candidats-là, ce n'est pas autre chose que les showmen qui participent pour améliorer le taux de participation à ces prochaines élections et rendre l'image télévisée un peu moins morne, un peu moins triste.
Vous dites les dés sont jetés d'avance. N'empêche que cette année 2017, on a quand même vu se manifester une opposition de plus en plus dure, radicale, voire un peu jeune dans la rue. Il y a eu trois manifestations importantes, dont deux animées par ce fameux blogueur Alexei Navalny, pour l'instant interdit de candidature. Mais il y avait également Vyacheslav Maltsev, qui est un opposant, ancien candidat législatif exilé en France. Et il y a des liens entre les deux. Donc il y a quand même une opposition assez forte.
Je mettrai pas dans le même panier Navalny et Maltsev. Navalny, pour moi, depuis septembre 2013, quand il a fait 27% aux élections à la mairie de Moscou sans avoir l'accès à la télévision, je pense qu'on peut parler d'un vrai homme politique qui est aussi habile, qui maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, mais aussi le vrai contact avec les électeurs, qui n'a pas peur du débat. Et il en a eu plusieurs avec Anatoly Tchoubaïs, par exemple, et c'était extrêmement intéressant. Il y a les gens dans l'opposition libérale qui l'ont pris comme un bol des fraîches de pouvoir avoir une vraie discussion, en fait, qui n'est pas préparée, répétée, dirigée et programmée en avance. Maltsev, c'est autre chose. Uchma Maltsev, en fait, il tient un blog Artpodgotovka et il a beaucoup misé sur la date de 5 novembre 2017 en disant que ce jour-là, il y aura une révolution en Russie. Évidemment, ce jour-là, il n'y avait pas de révolution. Maltsev lui-même était à l'étranger, alors que ses quelques partisans ont été arrêtés par la police et ont dû passer quelques jours en prison. Et par rapport à Navalny, pour moi, Maltsev, c'est vraiment une opposition très marginale, une opposition qui prête à des actions radicales. Donc, c'est de cette opposition-là que Vladimir Poutine parle quand il dit « Est-ce que vous voulez un Maïdan comme en Ukraine ?»
Et donc, il n'y a pas de risque pour vous, parce que ça pourrait être ça qui menace à l'avenir, peut-être après l'élection Vladimir Poutine, d'une jonction politique libérale nationale, on pourrait dire, entre ces manifestations parfois très nationalistes, effectivement, parfois violentes, qui veulent renverser le pouvoir, et une certaine frange libérale qui n'arrive pas à trouver une plateforme politique.
Vous savez, pour moi, c'est presque le mouvement inverse qui est en train de se produire. Pendant les protestations 2011-2012, c'est là où on a retrouvé l'opposition libérale et l'opposition nationaliste qui était extrêmement alliée. Quand vous pensez à l'image de Navalny avec les leaders de l'opposition nationaliste, c'était quand même extrêmement fort. Mais depuis l'annexion de la Crimée, il y a au contraire une divergence entre ces forces et une grande partie des nationalistes ont finalement rejoint la ligne de la Crimée et tout le discours sur Ruski Mir, Novorossiya, l'Est de l'Ukraine, le peuple divisé, etc., ça parle à cette frange de l'électorat. Et au contraire, pour moi, il y a une dissociation entre les deux, avec éventuellement une petite partie qui reste encore liée avec l'opposition libérale. La question, en fait, est-ce que c'est le peuple, la population, vont-ils suivre ou pas? Quand vous regardez les sondages, le taux de ceux qui disent prêts à descendre dans les rues et participer à des manifestations de protestation est extrêmement faible. Il varie entre 10 et 15%. les gens en Russie ne veulent surtout pas, et là Vladimir Poutine, il a parfaitement raison de dire ça, ne veulent pas de révolution comme en Ukraine. Ils ne croient pas que ceux qui peuvent venir au pouvoir par ce moyen-là vont être meilleurs que ceux qui sont déjà au pouvoir. Et malheureusement, le cas ukrainien et l'impopularité de Poroshenko aujourd'hui semblent confirmer cette tendance. Mais en plus, quand vous regardez en fait un peu plus profondément les sondages, ce qu'ils disent sur la population russe, c'est qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de la démocratie et la valeur d'une opposition. L'opposition pour l'opinion publique russe, ce n'est pas les opposants qui demain seront au pouvoir, une future élite qui peut venir en rotation à l'élite qui est au pouvoir. Ce sont plutôt les perturbateurs, le pouvoir qui est en place, qui veulent le renverser et qui n'ont pas le programme positif et constructif à proposer. Et c'est encore une fois Vladimir Poutine qui exprime ça parfaitement bien, en disant, en répondant à Ksenia Sobchak, finalement, vous n'avez pas de programme constructif, vous ne faites que critiquer. Et je pense qu'en disant ça, il exprime malheureusement ce que pense une grande partie de la population russe.
Et en tout cas, ça n'empêchera pas qu'on suive cette campagne pour voir si s'élabore précisément un programme constructif du côté de cette opposition. En tout cas, la véritable intrigue n'est pas le résultat de l'élection, mais ce qu'il se passera après 2024. Un peu comme vous le dites, c'est l'avis du politologue russe Konstantin Kalatchev. Merci beaucoup Tatiana Jean, directrice du Centre Russie NEI à l'IFRI et auteure de ce livre à paraître chez Talendier, Sans questions sur la Russie de Poutine.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Vous pouvez podcaster les enjeux internationaux sur les sites franceculture.fr.